Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 1 à 4 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets concernent les livres de Dieu comme la Torah, les Évangiles et le Coran, et le dur châtiment réservé à ceux qui mécroient au signe de Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم.
de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alif Lam Mim. Dieu, pas de Dieu que lui, le vivant, l'absolu. Il a peu à peu fait descendre sur toi le livre avec vérité, en tant que confirmateur de ceux qui étaient avant lui. Et il a fait descendre en bloc la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guidé pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Oui, à ceux qui mécroient au signe de Dieu un dur châtiment. Et Dieu est puissant, détenteur de vengeance.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi 14 mai 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran appelle l'Organisation de la coopération islamique à s'engager plus activement en faveur de la cause palestinienne. Le mouvement de la résistance islamique de Palestine, le Hamas, a déclaré avoir pris pour cible les stations du dôme de fer du régime sioniste. Et le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé toutes les nations arabes et islamiques et toutes les nations éprises de liberté dans le monde à venir en aide à la mosquée Al-Aqsa et à Gaza. Une incursion terrestre israélienne à Gaza sera le chemin le plus court vers notre victoire, a souligné en fait la branche militaire du djihad islamique, autre mouvement de résistance du peuple palestinien. Dans le même temps, le régime israélien a poursuivi ces atrocités, agressions contre les habitants de la bande de Gaza. L'aviation israélienne a procédé à d'intenses bombardements de la bande de Gaza. En fait, plus de 110 Palestiniens, dont plusieurs enfants et femmes, ont été tués dans ces bombardements. Le bilan risque de s'alourdir. Au Yémen, Ansar Allah, la résistance yéménite, affirme avoir attaqué des cibles sensibles à Najran. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Soulignant la nécessité de l'unité et de la coopération des pays islamiques pour contrer le régime sioniste, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'organisation de la coopération islamique devrait jouer un rôle plus actif dans les récents événements en Palestine, car cette organisation a été créée principalement pour la cause palestinienne et la mosquée d'Al-Aqsa. Lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, tout en félicitant le gouvernement et le peuple qatari à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, en saluant la position du Qatar dans la condamnation des récents crimes du régime sioniste dans la mosquée d'Al-Aqsa et à Gaza, le président Rouhani a déclaré les événements tragiques de ces derniers jours et les crimes du régime sioniste rappellent plus que jamais la nécessité d'unité et de coopération des pays islamiques pour contrer l'occupation sioniste. Il est nécessaire que les pays islamiques travaillent ensemble pour défendre le peuple palestinien et pour faire face aux actions hostiles et racistes du régime sioniste dont nous avons été des témoins ces derniers jours et pendant le mois sacré de Ramadan, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Le mouvement de la résistance islamique de Palestine, le Hamas, a déclaré avoir pris pour cible les stations du Dôme de fer du régime israélien et une base aérienne israélienne utilisée par les avions de combat israéliens pour bombarder des cibles civiles dans la bande de Gaza. En fait, l'aviation israélienne a procédé à d'intenses bombardements de la bande de Gaza en visant des installations résidentielles et civiles. 110 Palestiniens, dont plusieurs femmes et enfants, ont été tués dans ces bombardements. Le mouvement de la résistance islamique de Palestine a précisé « Nous avons tiré une volée de missiles Sejil sur la base aérienne de Adzerim à partir de laquelle les avions de l'occupation ont volé pour bombarder des civils à Gaza », ont déclaré la brigade Ezzeddin al-Qassam, la branche militaire du Hamas, dans un communiqué. La résistance de Yéménite a tiré au moins 2000 missiles et roquettes contre eux. Et Israël en représailles à ces agressions et ces atrocités commises par le régime israélien contre le peuple sans défense de la bande de Gaza. Dans le même temps, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a appelé toutes les nations arabes et islamiques et toutes les nations éprises de liberté dans le monde à venir en aide à la mosquée d'Al-Aqsa et aux habitants de la bande de Gaza. Et il a appelé en fait les nations arabes et islamiques et les épris de liberté à manifester pour soutenir le peuple sans défense palestinien. Une incursion terrestre israélienne à Gaza sera le chemin le plus court vers notre victoire, a déclaré le porte-parole de la brigade Al-Quds, la branche militaire du djihad islamique. Abu Hamza a déclaré que Gaza est le territoire que l'occupation israélienne regrettera d'y avoir pensé et a mis en garde l'occupation israélienne d'intervenir sur le sol de Gaza. Le porte-parole des brigades Al-Quds, Abu Hamza, a affirmé « Nos combattants et les factions de la résistance enregistrent les exploits les plus merveilleux, reflétant la persistance et la confrontation du peuple palestinien. » Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. soulignant que les rapports de force sont nettement en faveur de la résistance. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a condamné les récents crimes du régime sioniste et a souligné la nécessité de créer une coalition stratégique pour résoudre le problème palestinien. Les sionistes usurpateurs brûleront dans les flammes de la sainte colère du front de la résistance, a-t-il martelé. Le général de division Mohammad Barghari a condamné les crimes du régime d'occupation à Qods contre les Palestiniens et le martyr d'un nombre d'entre eux lors de l'irruption brutale des militaires sionistes dans la mosquée Al-Aqsa et d'autres zones dans les territoires occupés. Les atrocités commises par le régime sioniste dans les territoires occupés, la ville sainte de Qods ces jours-ci, l'effusion de sang de nombreux bébés fidèles jeunes ont suscité la tristesse du monde, en particulier de l'Oumma islamique, a-t-il déclaré 73 ans après l'occupation de la terre de Palestine et le massacre des Palestiniens opprimés. L'intifada de Qods est plus puissante que jamais et se dirige avec plus de passion vers un avenir où la Terre Sainte sera nettoyée du joug des sionistes pervers, a-t-il souligné encore. Les forces yéménites ont utilisé des drones et des missiles pour attaquer des cibles sensibles dans la ville de Najran, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Des positions militaires sensibles à Najran, des installations pétrolières d'Aramco et l'aéroport de Najran ont été visées avec 7 missiles balistiques de type Badr et Sahir et 5 drones Qassem K2, a souligné le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. L'opération a été accomplie avec succès, a souligné le général Sari, réitérant qu'il s'agit d'une riposte aux frappes aériennes de la coalition d'agression saoudienne ainsi qu'au blocus imposé contre le Yémen. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Une incursion terrestre israélienne à Gaza sera le chemin le plus court vers notre victoire, souligne la résistance palestinienne, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole des brigades Al-Quds, branche militaire du djihad islamique, Abu Hamza, a déclaré que Gaza est le territoire que l'occupation israélienne regrettera d'y avoir pensé et met en garde l'occupation israélienne d'intervenir sur le sol de Gaza. Le porte-parole des brigades Al-Quds, Abu Hamza, a affirmé « Nombre de combattants et les factions de la résistance enregistrent les exploits les plus merveilleux, reflétant la persistance et la confrontation du peuple palestinien. » Abu Hamza a ajouté dans une déclaration vidéo que toute agression menée par l'ennemi ne changera pas la stratégie de la résistance, soulignant que notre djihad se poursuit, nos opérations se poursuivent et la victoire est pour notre peuple. S'adressant à l'occupation israélienne en réponse à l'éventualité que ses forces interviennent sur le terrain à Gaza, Abu Hamza a averti « Si vous pensez à une bataille au sol, sachez que vous nous tracez le chemin vers une victoire certaine. » Et de poursuivre, le sort de vos soldats sera entre un mort ou un détenu. Alors ne nous menacez pas de ceux qui sera notre victoire, réitérant que Gaza est le territoire que l'occupation regretta d'y avoir pensé. S'adressant au peuple palestinien, Abu Hamza a assuré : nous ressentons votre amour, votre résignation et votre dévouement, et la victoire est l'allié d'un peuple qui a embrassé et qui s'est mêlé corps et âme avec sa résistance. Et de son côté, le porte-parole militaire des brigades, Nasser Saladin, la branche militaire du comité de résistance populaire, Abu Rabda Ataya, a affirmé : nous sommes tous convaincus que l'ennemi n'osera pas mener une guerre terrestre, notant que ces opérations aux frontières de Gaza sont un show qui ne terrorisera pas notre peuple héroïque. Et les brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Oued de la résistance islamique de Palestine, Hamas, ont confirmé leur totale disponibilité à assigner à l'ennemi de sévères leçons. En réponse à la menace de l'occupation d'une opération terrestre à Gaza, les brigades Al-Qassam ont souligné que toute incursion terrestre dans la bande de Gaza, si Dieu le veut, sera une occasion de hausser le nombre des morts et des captifs de l'ennemi.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la tension sociale monte en France. En effet, l'armée française a décidé de sortir de son rôle traditionnel et de s'ingérer directement dans les affaires de l'État en écrivant une deuxième lettre aux responsables du gouvernement, les avertissant donc d'une probable guerre civile. En effet, l'armée française pense que l'État n'a plus le pouvoir, le mécanisme ou le panache pour gérer les dossiers de la société française. Donc, et justement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a vu que c'est un gouvernement tout à fait à la solde des intérêts des États-Unis et d'Israël. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter donc des personnages, des spécialistes des questions internationales qui vont nous joindre pour répondre à nos questions, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien de Bruxelles. M. Luc Michel, bonjour. M. Luc Michel, est-ce que vous nous entendez? Bonjour.
Oui, je vous entends, oui.
C'est Pierre Dortiguier. M. Pierre Dortiguier, politologue et expert des questions internationales depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur, et à vos auditeurs et à votre invité.
Un grand bonjour à monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, bonjour à toute votre équipe et à vos téléspectateurs. C'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver.
Tout le plaisir est pour nous, monsieur Luc Michel. Ma première question va s'adresser à vous, je vous prie. Alors, comment se fait-il que l'armée a décidé de sortir de son rôle traditionnel et de s'ingérer directement dans les affaires de l'État? Et donc, c'est une alerte vraiment avertissant le gouvernement d'une probable guerre civile. Est-ce que vous êtes d'accord?
Non, on est devant une manipulation de l'extrême droite qui est avalisée par Macron. Il n'y a pas de risque de guerre civile. Il y a eu une première lettre qui a été émise par quelques généraux à la retraite. Et cette fois-ci, les soi-disant 10 000 signataires de la seconde lettre, c'est une manipulation, il n'existe pas. C'est fait par le journal français Valeurs Actuelles, proche de Marine Le Pen. L'extrême droite veut faire croire à une guerre civile et stigmatise la communauté musulmane. Et le régime de Macron avalise cela. En fait, nous sommes en présence de deux camps, le macronisme et l'extrême droite, qui veulent confisquer la future présidentielle française aux autres Français. Vous savez qu'aux élections présidentielles, il y a déjà un Français sur deux qui ne va pas voter. Dans ceux qui vont encore voter, ils sont moins de 50%. Le Pen et Macron, ensemble, ne représentent même pas la moitié de ces 50%. Ils ont pourtant la prétention de faire un remède de la précédente élection et de bon appui l'élection présidentielle en en éjectant toutes les autres forces politiques. À partir de ce moment-là, Marine Le Pen fait croire à ce risque de guerre civile, à ce soulèvement de l'armée, je le répète, qui n'existe pas et qui est dénoncé par tous les véritables généraux d'actifs. Et en plus de cela, du côté de Macron, on en rajoute un problème, puisqu'on laisse croire que ce risque est réel. Nous assistons en fait à une américanisation complète de la vie politique française. Vous savez que les élections présidentielles, en particulier aux États-Unis, sont caractérisées par la manipulation de ces élections par ce qu'on appelle les spin doctors, c'est-à-dire des spécialistes de la science politique et des manipulations. C'était particulièrement vrai sous George Bush II, ça l'est encore été sous Trump et ça l'est encore à cette élection-ci. Ces gens bâtissent des scénarios politiques et à travers des faux sondages, des opérations politiques, des manipulations des réseaux sociaux, ils tentent d'imposer ce scénario politique contre la véritable démocratie et la vie des citoyens. Il ne faut donc pas tomber dans ce piège. Il faut au contraire dénoncer, bien entendu, cette captation de la démocratie par les deux camps antagonistes qui veulent se réserver le monopole de l'élection présidentielle.
Oui. Nous allons développer cette question tout à l'heure, je vous prie. Monsieur Pierre Dortiguier, d'après vous, cette fois-ci, quelles sont les origines de cet avertissement de la part de l'armée française?
Eh bien, on le voit un peu dans le vocabulaire qui est employé. La lettre en question, dont parle très bien Monsieur Michel, parle de délitement de la société. Or, ce vocabulaire est un vocabulaire assez particulier, celui de la maçonnerie. La franc-maçonnerie, vous savez, qui utilise la métaphore de la pierre pour près de la construction sociale. Et le délitement, c'est justement ce qui indique le fractionnement de cette pierre. Je crois que la rhétorique en question qui est employée dans ces lettres et le fait que nous sachions que un certain nombre de généraux ont signé en retraite démontrerait qu'ils ne l'ont signé que sur ordre, c'est-à-dire ordre, je dirais même, de cette sorte de société que je viens d'indiquer, la maçonnerie, car vraiment c'est le point, c'est le lien vraiment idéologique de l'ensemble de ces hommes et qui ne peuvent pas agir maintenant sans avoir la permission. C'est le cas de la gendarmerie et surtout de la police au niveau des commissaires, etc., etc. Et donc je crois qu'il s'agit là, c'est là que je rejoins M. Michel, d'une sorte de frayeur, voyez-vous, qu'on veut communiquer au corps social en disant, et il y a une complicité de ce point de vue entre les partis dits d'extrême droite, comme Mme Le Pen, etc., et bien sûr le pouvoir en place. Qu'il y ait maintenant une certaine une volonté, c'est ce que M. Jacques Attali a exprimé l'autre jour dans une conférence publique avec M. Zemmour, vous savez, qui est un agitateur très connu, aujourd'hui très connu. Monsieur Attali a dit que si Mme Le Pen se présentait aujourd'hui, elle serait élue. Et je crois que, en effet, cette opération militaire, là, si je puis dire, vise une grande partie, non pas l'électorat existant, mais une grande partie de l'électorat qui n'a pas voté. Je rejoins là-dessus encore M. Michel. Les élections se font avec des minorités en France. Et donc, il suffit, à mon avis, le but de cela, c'est d'intimider le peuple français au moment où d'un certain nombre de sacrifices lui seront demandés, et en particulier quand il va s'apercevoir, surtout ses vacances et cet été et à la rentrée, que de nombreuses entreprises sont mortes, que nous avons, disons, un effondrement de la classe moyenne, voyez-vous. Je crois que c'est en fait pour éviter des troubles sociaux que cette menace, voyez-vous, du terrorisme islamique, etc., ce qu'on appelle, ce que ces militaires appellent d'ailleurs l'islamisme, voyez-vous, il y a même eu, je dirais, sur le plan de politique extérieure, il y a dans la lettre qui est publiée dans Valeurs Actuelles, une sorte d'appel à l'Europe, voyez-vous, d'avoir à lutter contre l'islamisme.
Oui.
Il y a derrière là, derrière cela des manipulations extérieures, certainement même peut-être de l'État d'Israël ou d'autres, voyez-vous, ou de certaines vues américaines, pour pouvoir, disons, orienter l'opinion française, la préparer, non pas à une guerre civile, mais la préparer surtout à des interventions extérieures, voyez-vous. Je ne crois, bien sûr, je dirais une dernière chose, c'est que l'ancien ministre de l'Intérieur, de Lille, qui avait été quand, au moment de sa démission, je parle du maire de Lyon, M. Gérard Collomb, avait dit que, en parlant des banlieues, etc., aujourd'hui on vit côte à côte, et je crains que demain on ne doit vivre face à face. Là aussi, c'est un homme qui appartient à l'organisation dont j'ai parlé. Je ne crois pas qu'il soit vraiment des réalistes, mais qu'il suive une sorte de programme, je ne parle pas que je ne suis pas complotiste, mais qu'il suive une sorte de programme, de ligne politique, voyez-vous, de terrorisation de la population française.
Oui.
Pour pouvoir, voilà, c'est comme ça que je vois, disons, le tableau de la situation.
D'accord. Monsieur Michel, Monsieur d'Ortiguier parle de l'intervention extérieure. Vous doutez tout de même, donc, le mécanisme d'un État, à la solde peut-être des intérêts des États-Unis et d'Israël. Est-ce que vous ne doutez pas quand même le manque de pouvoir de l'État pour gérer les affaires intérieures?
Écoutez, depuis longtemps, ces pouvoirs sont des pouvoirs au service de l'étranger. Ils sont dominés par ce qu'on appelle l'atlantisme. Qu'est-ce qui caractérise tout d'abord Macron? C'est que Macron est le choix d'un scénario politique, celui des réseaux pro-américains en France, notamment de Le Drian. Et Marine Le Pen, elle représente une extrême droite qui, sous prétexte nationalisme français, a fait sienne des théories de l'extrême droite américaine. Derrière la lutte de l'extrême droite contre la soi-disant immigration, il y a une théorie qui est le grand remplacement. C'est que les populations d'origine maghrébine viendraient remplacer les Français. Cette théorie, elle n'a pas été importée en France. Elle n'a pas été inventée, comme on le raconte, par le romancier d'extrême droite Renaud Camus. Elle a été inventée aux États-Unis à propos des Mexicains, des Latinos, par le grand théoricien américain Samuel Huntington, qui est aussi l'auteur de la théorie du clash des civilisations. Lorsque vous écoutez le grand penseur de l'extrême droite actuelle, Éric Zemmour n'a à la bouche que des théories de l'extrême droite américaine. Il ne s'en rend pas compte lui-même d'ailleurs. La nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, c'est la même chose. Elle a même été faite aux États-Unis à un congrès au Conservative Policy Action Committees qui répond à cette théorie-là. Et elle est soutenue par ces réseaux pro-américaines qui ont appelé notamment Donald Trump au pouvoir. Nous sommes dans une dépossession de la culture européenne au profit d'une culture non même pas mondialisée, mais américaine. Derrière tout cela, il y a évidemment des forces qui sont en action. On assiste depuis plusieurs années, notamment, à une militarisation des polices européennes qui est venue des États-Unis. Ça a été mis au point aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. C'est une volonté de confrontation sociale. Il y a des théoriciens comme Bill Gates aux États-Unis, comme Jacques Attali en France, qui nous disent eux-mêmes que le gâteau n'est pas assez grand pour tout le monde, qu'il faut contenir une partie de la population, qu'il faut la réduire par des méthodes malthusiennes, et eux sont prêts déjà, non pas à une guerre civile, mais à des États parapoliciers, ce qu'on appelle les démocratures. La pandémie du coronavirus, elle a mis en place cette démocrature. Un grand parti belge qui a été éjecté du pouvoir, le parti flamand NVA, a déclaré que c'était les coronadictatures. Il a raison. On voit une érosion des libertés publiques, un renforcement de l'état d'urgence dans les constitutions, un renforcement des services de police et de la répression. Tout ça, évidemment, c'est l'oligarchie qui sera prête à combattre le peuple.
Monsieur Michel, et depuis quand cette politique américaine donc a influencé pas seulement la France, mais toute l'Europe entière, cette extrême droite donc très présente dans la politique étrangère et intérieure de certains pays européens? Est-ce qu'on peut parler de l'influence des États-Unis et d'Israël dans toute l'Europe, dans ce domaine?
Écoutez, faut savoir quelque chose, c'est que, bien entendu, Macron, lui, est un pro-sioniste et un pro-américain, mais aussi Marine Le Pen. Ce qui caractérise l'extrême droite européenne, cette extrême droite-là, c'est qu'elle n'est plus, comme dans les années 30, antisémite. Elle est en fait favorable à Israël, dans lequel elle voit un allié contre les populations d'origine arabe ou musulmane. Le phénomène s'est opéré au début des années 1980. Déjà à l'époque, Jean-Marie Le Pen, le père fondateur de l'extrême droite française moderne, était pro-israélien. Il est devenu la guerre d'Algérie et il était pro-américain. Il est allé notamment rencontrer Reagan. Il se présentait à l'époque comme un Reagan français. Et depuis cette époque, le conservatisme américain n'a jamais cessé de s'imposer dans les milieux d'extrême droite et parallèlement dans leurs jumeaux obscènes qui sont les réseaux ultralibéraux pro-américains. Le but de Macron, il a été élu pour liquider le modèle social français, mais la société de Marine Le Pen, qu'on a qualifiée d'apartheid à la française, c'est une société aussi qui est profondément inégalitaire et qui laisse de côté de larges marges de la population. C'est un paradoxe parce que une grande partie de Marine Le Pen, c'est l'ancien électorat populaire de la gauche, en particulier du Parti communiste, qui se fait rouler dans la farine. À la prochaine élection présidentielle, ces gens veulent mener un scénario politique. Vous savez que la précédente élection a vu Macron se débarrasser de la gauche française. La gauche française qui prenait le pouvoir en France il y a 40 ans avec Mitterrand, aujourd'hui elle ne représente plus rien. Elle est atomisée, impuissante. Cette fois-ci, c'est le tour de la droite. Macron et Marine Le Pen veulent faire éclater la droite française, c'est-à-dire en gros les gaullistes ou les sarkozistes, et se partager les débris. La droite traditionnelle, les centristes, iront renforcer Macron et la droite radicale ira renforcer l'extrême droite qui a déjà intégré dans son sein certains de ses représentants comme M. Mariani. Le but de tout cela, il est assez simple, c'est que la vie politique française comme aux États-Unis soit dominée par deux camps, un centre qui est le macronisme et une droite ultra-radicale qui est la version française des républicains. Tout cela, évidemment, se fait en éliminant la variété, la différence de la France, etc. Tous ces petits partis qui existaient, toute cette richesse qui était représentée depuis une cinquantaine d'années au sein de la Ve République.
Oui. Pierre Dortiguier, votre analyse sur la question, je vous prie.
Eh bien, moi, je reprends en grande part. Je ne dis pas en grande partie, mais je dois avouer en totalité ce que vient de dire notre ami Michel, parce qu'il s'agit là d'une opération, en effet, politique générale, comment vous dire, d'artificialisation de la politique française. Je reprends ce qui a été dit, si on parle beaucoup des young leaders, des jeunes leaders, donc, et M. Macron en fait partie, Mme Marion Maréchal en fait partie, et donc nous avons, disons, deux pôles en apparence opposés, mais entre lesquels, disons, un même courant. Ce même courant a pour but, en fait, je dirais, pour employer une expression imagée, d'atomiser le peuple français, c'est-à-dire de le paralyser. D'abord, le premier acte qui est dans cette corona dictature dont tu parlais très bien, c'est d'abaisser, de ruiner la classe moyenne. Ça a commencé avec l'histoire des Gilets jaunes, ça continue, voyez-vous. Et alors, dans une nouvelle jeunesse qui est, prise par des artifices, voyez-vous, qui vit dans un présent immédiat, si je puis dire, à qui on enlève toute connaissance réelle, toute connaissance de la réalité, où on ne voit des choses qu'à travers la technique d'ordinateur, la technique de gestionnaire, voyez-vous, et non pas tellement de production. Tout ceci fait que nous préparons l'Europe, voyez-vous, à perdre de sa vitalité et à n'être plus que le champ de bataille, si je puis dire, entre d'un côté une Amérique qui
suit son programme, et de l'autre côté, bien sûr, d'autres pays qui sont qu'on appelle des pays émergents et auxquels les Américains, par exemple, essaient aussi d'imposer leur propre modèle d'une façon détournée, disons. Mais j'en retire l'idée que cette opération ne se fera pas sans mal, elle se fera avec énormément d'injustice et qu'il y aura même une division de la population immigrée, voyez-vous, et on la servira, elle sera asservie, et ceci en liaison avec de nombreux pays d'Afrique du Nord, des trois pays d'Afrique du Nord, qui sont complices justement de cette fausse immigration, cette mauvaise immigration, disons, où tous leurs problèmes sont exportés en France, et en échange, évidemment, ils sont maintenus. C'est une sorte de politique néocoloniale, si je puis dire, qui continue. Elle ne porte pas ce titre, mais disons, c'est une politique d'abaissement et du peuple français indigène, et également de ce qu'on appelle l'immigration, c'est-à-dire de ceux qui ont été, qui sont soumis, comme le peuple français, à cette même, je ne dis pas dictature, c'est plus fort que ça, à cette même vision du monde, voyez-vous, qui ne peut évidemment que produire des désordres. Vous savez, il y a la formule du Coran qui dit, certains veulent, disent qu'ils veulent construire un nouvel ordre, en réalité, ils ne font que produire le désordre et ils ne le savent pas.
Mais Pierre Dortiguier, est-ce que les Français aurait raison de compter sur l'armée française pour éviter un tel drame?
Eh bien, je ne le pense pas, parce que l'armée française est elle-même, elle n'est pas indépendante. Autrefois, elle était liée à des traditions. Bien sûr, c'est normal, la France était, par exemple, un pays chrétien, elle était liée à des traditions spirituelles. Et aujourd'hui, j'ai noté, j'ai relevé, si je peux me permettre de me citer, de l'influence de la franc-maçonnerie, par exemple, qui fait que vous ne pouvez plus avoir aujourd'hui de penseurs indépendants, c'est-à-dire que les gens ne suivent que des formules à l'emporte-pièce, comme on dit, voyez-vous, qui en réalité sont des slogans, des cris de guerre, mais contre un ennemi qui n'est même pas visible. C'est-à-dire qu'on cherche en réalité à fidéliser l'armée, on cherche à en faire un corps de métier, et on cherche à en faire, disons, une sorte de haute d'administration. Et cette administration, elle est employée aujourd'hui dans des guerres, en Afrique par exemple, au Mali, et pour pouvoir remplir, disons, des tâches que le capitalisme, enfin l'impérialisme en général, indique. Et de même, elle se prépare aujourd'hui, je l'ai remarqué dans la lettre qui était la première lettre dans l'heure actuelle, elle se prépare aussi certainement à, sous prétexte de lutter contre l'islamisme, du point de vue européen, voyez-vous, à prêter main forte à tous ceux qui voudraient, par exemple, faire une sorte de lutte permanente, de constituer une lutte permanente contre la Turquie, par exemple, contre le Razi même, voyez-vous. Je crois que c'est ça qui est le grand danger. Le peuple français ne peut pas compter sur une armée. Une armée ne peut pas du tout remettre une économie en marche. Mais par contre, une armée peut servir, justement, d'épouvantail, voyez-vous. Elle peut dire, par exemple, que cette armée peut simuler, disons, des scénarios de guerre civile, je dis bien simuler des scénarios pour intervenir, pour faire une répression et surtout nous lancer dans des aventures militaires extérieures
D'accord.
et aux intérêts de l'Europe et aux intérêts de la France. Ça, c'est ce que je crains le plus.
Tout à fait. Luc Michel, le peuple français, quant à lui, il a raison donc de compter sur l'armée française pour régler ce problème.
Décrocher de la politique. Je vous expliquais qu'à la dernière élection présidentielle, un Français sur deux n'a pas été voté. Macron, c'est un président élu avec 25% réellement des voix. Marine Le Pen, qui se présente comme le principal français, parti français, elle représente en réalité 12,5% des Français. La grande masse du peuple français, elle ne croit plus à la démocratie française. Elle ne croit plus à cette 5e République confisquée par l'oligarchie. Et donc, les Français du tout, ceux qui suivent la politique chez Macron, chez Le Pen, peuvent peut-être croire à ces fantasmes de guerre civile, mais la masse des Français est indifférente à toutes ces manipulations. Il faut retenir quand même quelque chose. Le professeur Dortiguier a parlé des Youpliques. Il y a eu, sous Giscard d'Estaing, une grande opération d'entrisme de la vie politique française qui a été lancée par les États-Unis, c'est la French American Foundation. Particulièrement, elle s'est concentrée sur les milieux de droite et sur les milieux de centre-gauche. Dans le dernier gouvernement de François Hollande, il y avait 9 young leaders, dont François Hollande lui-même et 9 de ses ministres. Dans le dernier gouvernement Macron, où le Premier ministre Philippe précédent, c'était des young leaders, il y en a également dans l'extrême droite, il y a également les grands ténors, les directeurs de la presse, les hommes d'affaires, etc. Ce sont des anciens young leaders. Ils ont remplacé la vieille classe politique française, notamment les gaullistes
tout
et
à
les
fait.
Communistes,
oui.
Par une classe politique comprador étrangère à la France et à l'Europe.
Tout à fait. Bien, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Il y avait vivre l'émission d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Les portes de l'enfer sont ouvertes. C'est ainsi que le journal israélien Ma'ariv a qualifié les frappes aux missiles de la résistance palestinienne depuis la bande de Gaza sur les territoires occupés et d'ajouter « Comme ce fut le cas en 2014, l'armée israélienne était en retard dans la reconnaissance des motivations du Hamas pour attiser les flammes. La seule chose qui reste à Israël maintenant est d'essayer de restaurer la dissuasion perdue. » Comment évaluer le changement dans l'équilibre de la force en faveur de la résistance? Écoutons à ce sujet l'analyse de Pierre Dortiguier, politologue français.
Eh bien, cela d'abord signifie que dans ce combat qu'on appelle asymétrique, vous savez, en un seul mot, c'est-à-dire que dans lequel il y a une disproportion des forces, la force minoritaire peut, avec la force technique aujourd'hui, la puissance technique, je veux dire, des fusées, etc., infliger des maux importants aux adversaires, voyez-vous, à ses adversaires. Il faut tenir compte de ce caractère technique. Ça, c'est l'avancée de la technologie qui fait qu'une partie, une fraction d'une population qui est pauvre, par exemple, peut, avec des missiles, avec des, évidemment, infliger des pertes très douloureuses à ceux qui la dominent, quelle que soit la puissance, bien sûr, le degré de puissance, disons, dont dispose cette force. Je crois que cela est un encouragement, bien sûr, en tout cas, je me place du point de vue des Orientaux, pour ceux qui maintiennent, évidemment, veulent maintenir l'axe de la résistance. Résistance à quoi? Résistance à l'expansion israélienne, car les Israéliens ne se contenteront pas d'avoir expulsé les Palestiniens. Ils veulent terroriser les pays qui sont autour d'eux pour pouvoir les soumettre à long terme, voyez-vous, et naturellement d'une différente façon. Mais que ce soit aujourd'hui le Liban qui est touché, que ce soit la Syrie qui est le principal adversaire aujourd'hui, que ce soit demain l'Iran aussi. Car voyez-vous, cette entité sioniste, elle a été créée pour pouvoir justement dominer le Proche-Orient, le contrôler. Et les Israéliens pensaient utiliser l'aide réciproque, voyez-vous, de la Russie autrefois et des États-Unis. Aujourd'hui, bien sûr, même la Russie a compris, je dirais même la Russie, ça m'échappe, mais a compris que, quelles que soient ses relations avec Israël, elle est obligée quand même aussi de ne pas, négliger l'axe de la résistance. Autrement, disons, nous aurions un état de chaotique au Proche-Orient qui lui-même, disons, serait ingérable, serait un danger même pour les grandes puissances. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je reviens encore, les Israéliens doivent comprendre, tirer une leçon de ce combat asymétrique du point de vue technique, voyez-vous, et dire que quels que soient les sous-marins qu'ils ont, quelle que soit la classe Delphine, que ce soit les sous-marins avec charge atomique, hein, qu'est-ce que soient les bombes atomiques qu'ils peuvent avoir, comme on sait dans le désert de Dimona, hein, et bien ainsi de suite, ceci, disons, ne les met pas à l'abri de coups très puissants qui fatalement, je pèse bien mes mots, fatalement, démoraliseront la population israélienne, car une grande partie de cette population qui s'est installée en Israël veut y chercher le grand parti, veut y chercher la paix et la sécurité, mais au prix, bien sûr, d'un mensonge. C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué non plus aux Israéliens, aux honnêtes, disons, quelle est la racine de cet État, quelle est la visée première de cet État, qui, je le répète, n'est pas un fruit de la guerre de la dernière guerre, mais un fruit de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, à la paix de Versailles en 1919, où étaient les principaux représentants sionistes. C'est l'histoire d'un crime, mais d'un crime qui remonte très haut et très loin dans le temps.
L'Europe, terrain de manœuvre de la stratégie USA-OTAN. La mobilité terrestre des personnes dans l'Union européenne a été paralysée en 2020 par les confinements, principalement à la suite du blocage du tourisme. La même chose est arrivée dans la mobilité aérienne et selon une étude du Parlement européen de mars 2021, elle a subi une perte nette de 56 milliards d'euros et de 191 000 emplois directs et plus d'un million chez les sous-traitants. La reprise en 2021 s'annonce très problématique, un seul secteur en contre-tendance a fortement augmenté sa propre mobilité, c'est le secteur militaire. En ce moment, en Europe, environ 28 000 militaires sont en train de passer avec chars d'assaut et avions d'un pays à un autre. Ils sont engagés dans la Defender Europe 21, donc Défenseur de l'Europe 2021, la grande manœuvre non pas de l'OTAN mais de l'armée américaine en Europe à laquelle participent 25 alliés et partenaires européens. L'Italie y participe non seulement avec ses propres forces armées, mais en tant que pays hôte. En même temps, est sur le point de débuter l'exercice OTAN Steadfast Defender, donc défenseur résolu, qui mobilise plus de 9000 militaires états-uniens et européens, y compris italiens. Il constitue le premier test à vaste échelle des deux nouveaux commandements OTAN. Le commandement de la force conjointe, dont le quartier général est à Norfolk, aux USA, et le commandement de soutien, dont le quartier général est à Ulm, en Allemagne. La mission du commandement de Norfolk est de protéger les voies atlantiques entre Amérique du Nord et Europe, qui, selon l'OTAN, seraient menacées par les sous-marins russes. Celle du commandement d'Ulm est d'assurer la mobilité des troupes à travers les frontières européennes pour permettre un renforcement rapide de l'Alliance sur le front oriental, qui, selon l'OTAN, serait menacé par les forces russes. Pour cette seconde mission, un rôle important est joué par l'Union européenne à laquelle l'US Armée Europe a requis l'institution d'une aire Schengen militaire. Le plan d'action sur la mobilité militaire présenté par la Commission européenne en 2018 prévoit de modifier les infrastructures, ponts, chemins de fer et routes non adaptées au poids ou aux dimensions des véhicules militaires. Par exemple, si un pont ne peut pas supporter le poids d'une colonne de chars d'assaut de 70 tonnes, il doit être renforcé ou reconstruit. Après avoir destiné à cet effet une première allocation d'environ 2 milliards d'euros en argent public soustrait aux dépenses sociales, les ministres, donc Union européenne de la Défense, pour l'Italie, Lorenzo Guerini, ont décidé le 8 mai de faire participer les États-Unis, le Canada et la Norvège au plan de l'Union européenne de la mobilité militaire. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, présent à la réunion, a souligné que ses alliés n'appartenant pas à l'Union européenne jouent un rôle essentiel dans la défense de l'Europe. De cette façon, l'OTAN, à laquelle appartiennent 21 des 27 pays de l'Union européenne, après avoir chargé l'Union européenne de réaliser et payer la restructuration des infrastructures européennes à des fins militaires, prend de fait en main la gestion de l'ère Schengen militaire. Dans une Europe transformée en place d'armes, l'adaptation des infrastructures à la mobilité des forces USA-OTAN se trouve testée dans des exercices de guerre qui prévoient le déploiement de forces terrestres et navales de l'Amérique du Nord à la région de la mer Noire et servent, selon les mots de Stoltenberg, à démontrer que l'OTAN a la capacité et la volonté de protéger tous les alliés de toute menace. Ce qu'est la menace va être déclaré par les ministres des Affaires étrangères du G7, comprenant les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon, qui se sont réunis le 5 mai à Londres. Les sept ministres, pour l'Italie Luigi Di Maio et pour la France Jean-Yves Le Drian, renversant les faits, accusent la Russie d'adopter un comportement irresponsable et déstabilisateur. Accumulation massive de forces militaires russes aux frontières de l'Ukraine et en Crimée, illégalement annexée, cyberactivité malveillante pour porter atteinte au régime démocratique d'autres pays, activité malveillante et recours à la désinformation. Nous soulignons l'importance du respect de la Convention de Vienne. Le fait que le G7 formule de telles accusations avec les paroles mêmes employées par le Pentagone et répétées par l'OTAN confirme l'existence d'une même matrice dans la stratégie de la tension qui pousse l'Europe dans une situation de plus en plus périlleuse.